Bonsoir, bienvenue sur Radio Galère 88.4 dans l'émission « Et si on s'écoutait ?». Nous sommes le mercredi 25 juin 2025. L'émission sera diffusée vendredi et le podcast, lui, sera disponible sur le site de Radio Galère dans quelques jours. Dans cette émission « Et si on s'écoutait ?», nous recevons des acteurs de la ville de Marseille qui œuvrent pour l'écoute dans la société et le bien-vivre ensemble. Il peut s'agir d'un acteur culturel, artistique ou même sportif. L'idée est d'illustrer par l'action ce que veut dire s'écouter, créer du dialogue dans la société. On explore un autre pan de l'écoute, celle des autres, et comment cohabiter en fonction des désirs de chacun dans le monde d'aujourd'hui. L'émission de ce soir marque le début de l'été et notre équipe part en vacances en juillet et en août. Donc on vous donne rendez-vous à la rentrée dès le mercredi 24 septembre pour démarrer ensemble la troisième édition. En attendant cet été, vous pouvez réécouter nos émissions en replay à partir du site internet de Radio Galère. Ce soir, nous avons invité avec Marion à notre antenne les Jardins d'Haïti, une maison à vivre, ouverte à toute tranche d'âge, puisque la maison d'Haïti, c'est une maison pour les retraités, une crèche, une résidence étudiante, un espace de coworking, une école de musique, un jardin partagé, prochainement une chorale, mais Marion nous en parlera davantage. L'harmonie entre générations, le bien vivre ensemble, le partage, la bienveillance, l'humain, le prendre soin et l'écoute sont au cœur de ce projet qui réinvente le lien entre habitants d'une ville comme Marseille. Nous sommes très heureuses de la recevoir ce soir à l'antenne. Bonsoir Marion.
Bonsoir. Merci.
Alors Marion Viguier, tu es la référente tiers-lieu au Jardin d'Haïti.
C'est ça, exactement.
Depuis quelques mois, tu vas nous raconter le début de cette aventure professionnelle à Marseille. Et avant de rentrer dans le projet des Jardins d'Haïti, peut-être que tu peux te présenter et puis nous expliquer un peu ton parcours, pourquoi tu as rejoint l'aventure. Et la petite question d'introduction à nos invités, c'est le rapport à l'écoute. Qu'est-ce que t'évoques le titre de notre émission ?
L'écoute.
Oui.
L'écoute, l'écoute, c'est toute la journée. Enfin, ça commence déjà au début de ma journée avec soit un podcast, d'ailleurs. Beaucoup, j'en écoute beaucoup autour de la philosophie, beaucoup. J'adore la musique. La musique berce toutes mes journées. Donc, j'ai toujours été baignée dans la musique grâce à mes parents, qui sont tous les deux musiciens amateurs. Et j'ai fait beaucoup de musique, toute ma scolarité au conservatoire, etc. Donc j'ai vraiment une appétence pour la musique forte. L'écoute, donc, c'est déjà une écoute solitaire, mais c'est aussi énormément, évidemment, l'écoute de l'autre. L'écoute de l'autre, aujourd'hui, dans ma vie, ça se traduit par l'écoute des résidents au Jardin d'Haïti, beaucoup, avec beaucoup d'empathie, en essayant de comprendre vraiment ce qu'ils peuvent traverser, ce qu'ils veulent vraiment me dire. Et c'est aussi les regarder, les écouter avec les yeux, leur montrer que j'essaye de comprendre, j'essaye de me mettre à leur place. Et l'écoute aussi, c'est mes amis. Ça, c'est sûr. C'est sûr que je les écoute beaucoup au téléphone, des heures, mais ils m'écoutent aussi. C'est l'écoute au quotidien, au maximum. C'est sûr que nos vies vont à 200 à l'heure, mais ce nouveau travail au Jardin d'Haïti me permet un peu de ralentir la cadence, et de revoir mon rapport au temps. On est toujours un petit peu pressé, et en fait, de voir ces résidents sans grand chose à faire, ça fait réfléchir et ça donne un peu moins d'urgence dans ma vie. Et du coup, ça me donne envie d'écouter aussi bien plus les gens que je croise dans mon quotidien, dans la rue ou dans les commerces, de prendre plus le temps d'écouter, en fait.
Ces personnes âgées, finalement, elles ont beaucoup de temps, elles sont beaucoup dans le présent.
Ça c'est sûr.
Ouais. Et dans le présent, forcément, on est peut-être plus dans la contemplation, dans l'écoute, ouais.
Complètement. Bah, je pense là directement à Paul, que je viens de quitter des Jardins d'Haïti, qui a passé son après-midi de 14h à 16h30 sur sa chaise à regarder ce qui se passait. Malgré le fait qu'il y ait plein d'animations au Jardin d'Haïti, mais
oui,
il avait juste...
Oui, tu vas nous expliquer. Ouais. Et Paul, il a quel âge ?
Paul, il a 93 ans. Ouais. Et ça fait un petit moment qu'il est au Jardin. Et c'est sa maison. Et voilà, il regarde les gens passer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Mais il regarde les oiseaux. Enfin, vraiment, c'est de la contemplation, comme tu dis.
Ouais, écouter, c'est regarder, comme tu dis.
C'est aussi regarder. Ouais, c'est regarder aussi, je trouve.
Ça, c'est intéressant.
Ouais.
Et donc, quel est ton parcours au Marseille? En préparant l'émission, tu m'as dit que ça fait un an que tu as découvert la ville et que tu l'as apprivoisée, finalement.
Ouais, complètement.
Et avant ça, tu habitais à Lyon.
Avant ça, j'habitais à Lyon. Je suis lyonnaise. Je suis née à Lyon. Et avant ça, du coup, j'ai fait plusieurs expériences d'entrepreneuriat. J'ai commencé par un projet, on va dire, qui lie l'agriculture et le tourisme. C'était après une année de voyage où j'avais plus envie de revenir à des boulots qu'on peut appeler standard. Et j'ai eu du mal à trouver ma place. Je faisais de l'immobilier. Donc j'étais dans le commerce et j'ai atterri dans l'immobilier. Et j'avais vraiment du mal à trouver de nouveau ma place dans l'immobilier. Et il se trouve que j'ai rejoint des amis que je connaissais d'enfance, qui sont passionnés d'oiseaux exotiques et d'animaux exotiques dans la campagne lyonnaise. Eux avaient donc des terres agricoles avec leurs animaux. Et il m'est venu l'idée de leur proposer de faire un projet d'hébergement insolite, tout simplement lié à mes aventures et à mon voyage, parce que j'avais pas envie de décrocher de tout ce que j'avais vécu, je pense. Et donc pendant une année, on a vraiment essayé de faire ça, parce que bon, ce projet n'a pas vu le jour, mais c'était quand même super enrichissant sur le plan humain, sur le plan... j'ai appris beaucoup de choses au niveau manuel. J'ai construit énormément grâce à eux.
Lieu insolite pour y passer la journée, pour y passer l'année, pour y passer une nuit.
Le but, c'était d'y passer une nuit et d'imaginer comme des petites cabanes ou des petites yourtes dans des plaines avec des animaux en semi-liberté. Mais ça n'a pas été le cas. On a commencé, au final, on a fait un peu venir des visiteurs à la journée, effectivement. Ça a commencé comme ça. Puis on s'est rendu compte déjà qu'on n'avait pas peut-être les épaules pour mener un projet aussi gros. On était très jeunes et ça s'est arrêté au bout d'un an. Et suite à ça, j'ai rencontré Léna, qui a été mon associée pendant 9 ans, qui avait aussi l'envie forte de faire un projet et de créer.
Et... C'était une amie ? Enfin, c'est une amie ?
Oui, ouais, okay. C'est une amie. Et du coup, on a fait ça, ce projet qui s'appelle l'Estanco du marché. À la base, on a retapé une caravane Eriba des années 70 pour faire un petit food truck et se balader sur les festivals, sur les marchés lyonnais. Et on a commencé par vendre des green juice et du bien manger, en fait. On voulait vraiment promouvoir le bien-être et la santé à travers la nourriture. Et on a développé un peu le projet. Au bout d'un an d'itinérance, on s'est installé dans le 6e arrondissement de Lyon et on a fait un restaurant.
Vous avez ouvert un restaurant.
On a ouvert en dur et on a fait une petite cantine végétarienne, épicerie bio et en fait aussi un petit lieu de vie. Voilà.
Donc et déjà, tu avais à cœur d'animer un lieu.
Exactement, d'animer un lieu et qui me ressemble et qui soit vraiment authentique avec nos deux âmes, quoi. Et ça se ressentait. C'était plein de brocantes ici et là. Enfin, c'était un restaurant pas vraiment comme les autres.
Vous l'avez fait animer au-delà de la restauration, ce lieu.
Des
choses que vous aimiez faire ou...
On a alors ça a été quand même vraiment le thème principal, la restauration. Mmh. On a aussi voulu développer une épicerie, enfin toujours dans le bien manger et le bien-être. Ouais. Voilà. Et donc suite à ça, ça a duré 8 ans.
Quand même une grande aventure entrepreneuriale entre amis.
Ouais, 9 ans avec l'itinérance. Donc 9 années en tout, 8 ans en dur. Donc ouais, c'est un beau projet qu'on a décidé d'arrêter pour vivre d'autres choses. Donc on a vendu le restaurant et moi j'avais très envie du coup de partir dans le sud. Et c'était un rêve qui était dans ma tête depuis des années, de vivre plus au soleil et plus proche de la mer. Mmh. Donc voilà, j'ai sauté le pas. Et me voilà arrivée à Marseille depuis maintenant une année. Donc assez fraîche dans cette ville que j'aime beaucoup. Elle est...
Oui, parce qu'il y a un contraste assez fort, comme on se disait en préparant l'émission, entre Lyon et Marseille. Forcément, l'énergie n'est pas la même.
Ouais.
Puis d'habiter au bord de la mer. En plus, toi, t'es du côté de la Pointe-Rouge.
Ouais. L'énergie est totalement différente. Ça pourrait un peu perturber certains Lyonnais, mais moi j'adore. Je trouve que...
Qu'est-ce que tu aimes de Marseille qui est différent ?
J'aime l'animation, l'authenticité des gens, le lien que je trouve un peu plus sincère et plus simple. La vie, hein, je trouve qu'il y a... Il se passe plus de choses, même tous les lieux. Je trouve qu'il y a énormément de lieux super intéressants à Marseille, aussi bien au niveau de la restauration que de l'événementiel, que culturel. J'aime habiter à côté de la mer et de voir l'horizon tous les soirs. Ça, c'est incroyable pour mon bien-être. Et aussi passer l'hiver bien plus au soleil. Ça, c'est un énorme plus aussi.
Ouais, forcément, ça fait du bien.
Ouais.
Et les Jardins d'Haïti, comment tu as découvert ce projet ? Comment tu as été amenée à rejoindre l'équipe ? Comment ça s'est fait ? Est-ce qu'il y a eu une rencontre ? Est-ce que...
Les Jardins d'Haïti, c'est, j'ai connu grâce à une amie qui s'appelle Agathe, qui habite ici. Et qui connaissait mon envie de travailler. Enfin, à la base, c'était vraiment plutôt d'un côté bénévole, d'être plus en lien avec les personnes âgées. Et ça fait un moment que j'en parle. J'avais pas forcément le temps avec mon restaurant, mais j'ai toujours dit que je voulais donner de mon temps aux personnes âgées. Et elle m'a parlé de ce lieu qui lui paraissait fascinant, parce qu'il l'est. Et j'ai vu en effet les Jardins d'Haïti. C'est grâce à elle que j'ai connu. J'ai regardé les réseaux. Il y a beaucoup de communications qui sont faites sur les jardins, donc c'était bien facile de pouvoir me projeter dans ce lieu. Et il se trouve que 3 semaines après, il y a eu une offre d'emploi qui est sortie.
La vie est une timing.
Ah, de toute façon, ça, j'en suis persuadée. Et du coup, j'ai postulé sans évidemment aucune expérience d'ailleurs dans l'animation, même dans le secteur des personnes âgées. J'avais pas grand chose à donner dans ma lettre de motivation à part mon envie de partager. Et j'ai rencontré du coup Laurent qui est le directeur des Jardins d'Haïti.
C'est le fondateur aussi ou...
Non, c'est l'arrière-petit-fils de la fondatrice.
Okay.
Voilà, c'est une belle histoire de famille. Et on s'est rencontrés et en fait ça a matché assez rapidement, en tout cas de mon côté. Après, je sais pas si ça a été long, mais en tout cas
a priori oui, c'est ouais, rejoint l'équipe.
Ouais, ça a matché parce que finalement on parlait juste d'animation sur le poste, mais le poste est en fait bien plus large et il était plutôt voué à être porteur de projet.
Tu vas nous expliquer peut-être ce qui serait bien, c'est que tu nous présentes ce projet, qu'est-ce que c'est ? Parce que vous dites que c'est un lieu qui célèbre la vie plutôt que de l'encadrer. Peut-être que tu peux nous présenter ce lieu pour les personnes, les auditeurs qui ne le connaissent pas, ce qui s'y fait. Et puis nous décrire peut-être aussi ton poste pour qu'on puisse se projeter avec toi sur ce que tu dois déployer.
Ouais. Du coup, les Jardins d'Haïti, à la toute base, c'est un EHPAD, mais on ne veut plus utiliser ce nom. On appelle les Jardins d'Haïti une maison à vivre. Et donc, il y a 93 résidents, qui sont des personnes âgées, qui vivent dans les lieux. Et autour de ça, on a développé du coup un espace de coworking ouvert à tous, une école de musique qui est ouverte aux plus petits comme aux plus grands. Il y a également le restaurant qui est ouvert au public du coworking, qui peuvent manger et partager la table des résidents. Qu'est-ce que j'oublie ?
Le jardin partagé.
Le jardin partagé. On en fait tellement. Le jardin partagé.
Et bientôt une chorale, tu disais.
Et bientôt une chorale, ouais. J'ai contacté en fait une chorale qui s'appelle le Labo de Cléry. Ils font des chorales un petit peu partout en France. Et il y en avait une qui s'était lancée à Marseille sur cette année-là, qui vient de se terminer. Et il se trouve que je l'ai appelée encore une fois un très bon moment parce qu'elle cherchait un second lieu pour en faire une deuxième sur Marseille, donc avoir deux chorales l'année prochaine. Et voilà, et encore une fois, ça a matché très vite et ça va se passer au Jardin d'Haïti tous les jeudis soirs.
Avec les résidents du coup ?
Alors les résidents sont évidemment bienvenus à écouter les répétitions et chanter avec les choristes. Mais à la base, c'est vraiment tout un public qui vient de l'extérieur. En général, elle me disait que ça allait toucher quand même au moins 60 personnes. Et tout le but évidemment c'est de faire profiter les résidents.
Donc en fait ils viennent répéter là-bas, mais les résidents peuvent intégrer la chorale.
Exactement. Et tout ce qu'on développe c'est uniquement pour créer du lien avec les résidents. Donc le coworker qui vient, il va pas se mettre dans un bureau enfermé. Enfin, le but, c'est qu'il soit dans les salles communes et qu'il travaille, bien sûr. Mais pendant sa pause, bah, il va parler avec un résident, il va prendre un café. En plus, on offre le café, donc c'est quand même sympa. et le but, c'est de créer du lien.
Juste sur la même table, comme tu disais, en préparant l'émission.
Ouais, on incite aussi vraiment à partager le déjeuner avec les résidents. Parce que c'est un moment, de toute façon, de partage. Donc autant être autour de d'une même table.
Non, mais d'ailleurs, c'est assez fou parce que, écoute, j'ai une amie qui m'a proposé ça depuis 2 mois. Elle me propose qu'on y aille ensemble parce qu'elle y va. Et elle m'avait raconté ce projet et j'étais en mode ah, mais elle m'avait pas dit qu'en fait ça s'appelait les Jardins d'Haïti. Donc elle me parlait de ce projet. Je me dis, mais oui, il faut absolument que je vienne. J'adore l'idée. Ouais. Et j'y vais vendredi, figure-toi.
C'est hyper drôle.
C'est hyper drôle.
Encore un bon timing.
Exactement. Et du coup, j'adorais qu'elle me raconte. Justement, elle, sa rencontre avec Claude, elle était en train de faire une vidéo conférence et il y avait Claude qui a un peu Alzheimer qui arrive et elle était là, non, non, Claude, non, pas maintenant. Et c'était marrant, tu vois, de se dire qu'on peut partager ça en étant dans un endroit de vie aussi.
Et ouais.
Donc, je trouve ça très chouette et assez surprenant finalement que
c'est rigolo,
on se rencontre ce soir alors que dans 2 jours, j'y suis.
Et c'est génial. Donc, elle vient régulièrement.
Elle vient régulièrement, ouais. Parce qu'elle, elle est full télétravail. Et elle vient
depuis peu. On va finir cette conversation en privé, mais je pense voir qui c'est. C'est pour ça.
Elle s'appelle Léa.
Ok. Bon, les prénoms j'ai pas, mais ok.
Ouais. D'ailleurs, petite dédicace Léa, si tu nous écoutes. Pardon.
Ok.
Ouais. Donc voilà, je faisais une petite avancée.
Malheureusement, je serai pas là vendredi.
Mais
tu seras très bien accueillie, j'en doute pas.
On se recroisera.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'histoire familiale de ce lieu? Tu disais que ça remonte à 3 générations.
Il me semble, non?
C'est l'arrière-grand-mère de Laurent.
Ouais.
L'arrière-grand-mère de Laurent, qui a fondé cette maison qui était vouée à aider les personnes isolées, à la base, vraiment. Et en plus, c'était en 1950, donc à cette époque-là, ces personnes-là étaient vraiment mises sur le côté. Et donc, c'est parti de ça. Et de génération en génération, donc son grand-père, puis son père, ont repris la maison et ont développé. C'est devenu plus grand. À chaque fois, je pense que chacun a mis sa patte. Et Laurent l'a mis vraiment sur le côté tiers-lieu. Enfin, faire en sorte que... Alors, ça a toujours été vraiment une maison dynamique, avec beaucoup d'amour. Quand on rencontre la famille, on comprend. Mais Laurent, sa particularité, je pense que c'est que... Il veut pas penser la maison comme un EHPAD. C'est impossible pour lui. C'est vraiment de la musique tout le temps, de la bonne musique, du mobilier joli, des plantes partout, des photos de voyage, des photos de surf. Enfin,
en fait, de la vie.
Voilà, de la vie, qu'on se sente bien, qu'il n'y ait pas cette case. Bah non, on est dans un EHPAD, c'est pas possible. En fait, tout est possible. Et toutes nos folies, on les réalise en fait. Et c'est assez beau.
Et justement, ces activités qui sont proposées, est-ce que toi, depuis que tu y es, mais j'imagine que tu as aussi des retours d'expérience, les retombées un peu émotionnelles sur les résidents, est-ce qu'ils partagent
Bien sûr.
Bien
sûr. Bah, c'est aussi bien la musique, on sait que ça procure beaucoup d'émotions, mais tous les partages en fait, qu'on crée grâce on va appeler ça des partenariats, mais on reçoit beaucoup d'écoles. En gros, on mélange beaucoup les publics et on a un partenariat avec les apprentis d'Auteuil. Voilà, donc il y a vraiment plein de publics mélangés et le lien se fait autour d'ateliers, autour de discussions, autour de quiz musicaux. Enfin, il se passe plein de choses le plus beau en finalité, c'est le lien et la rencontre à chaque fois.
Et la rencontre, elle se fait plutôt donc en soirée, tu vois, fin de journée, soirée. Est-ce que durant la journée, bon, il y a l'espace de coworking, de ce que je comprends, il y a quand même des gens régulièrement. Mais justement, ces chorales, ces concerts, j'imagine que tout ça, c'est plutôt fin de journée.
Alors, il se passe beaucoup, beaucoup de choses la journée, principalement.
Okay. D'accord.
En effet, la chorale, ça va être en soirée. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des concerts en journée, parce que les résidents, ils sont un petit peu fatigués.
Bah oui.
c'est plutôt
en fait.
Voilà. Bon, il y a des insomniaques aussi, donc ça leur profite. Mais non, les animations sont plutôt en journée.
Ouais,
plutôt en journée. Là, on en parlait tout à l'heure, on fait à partir de début juin jusqu'à fin septembre, des apéros live musique. Donc on accueille un mercredi sur deux un groupe qui vient jouer en live. Et c'est la fête. C'est
pour la fête. L'apéro, c'est... à partir de 16h.
C'est... Ouais,
13h. À quelle heure est l'apéro?
C'est 16h30 chez nous. Mais et voilà, il y a de la très très bonne musique, de la danse. Hein, on chante, on danse, on rit et tout. C'est ouvert à tout le monde. Donc évidemment aux familles, mais à tout le monde, à vous, à tout le monde. Donc c'est trop chouette.
Et tu disais que pendant préparant l'émission, donc il y a 96 résidents, il y a deux étudiantes,
oui,
aujourd'hui, qui se partagent une sorte de studio. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pour qu'on puisse un peu s'imaginer comment comment ces générations se rencontrent? Tu nous expliquais aussi qu'il y avait cette crèche où les personnes âgées peuvent regarder ces enfants qui viennent dans les espaces où ils sont. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance qu'on peut trouver?
Alors, les deux étudiantes, c'est avec l'association Ensemble de Génération. C'est eux qui ficellent le projet. Et elles vivent, du coup, sur une année dans les locaux. Vraiment, leur appartement avec leurs deux chambres, c'est dans les locaux, à côté des résidents. Et le principe, c'est qu'elles sont, du coup, logées complètement gratuitement en échange de 7 heures de temps par semaine. Avec les résidents. Après, évidemment, elles font ce qu'elles veulent, si elles veulent en donner plus, et ça peut se passer comme ça. Et comment ça s'articule? Elles sont étudiantes, donc elles ont quand même des choses à faire la semaine. Et les soirs de semaine, elles vont venir passer du temps avec les résidents. Des fois, elles préfèrent le faire avec seulement un résident, pourquoi pas dans la chambre, les aider à utiliser leur tablette pour être plus en lien avec leurs proches, ou lire un livre, ou écouter de la musique ensemble, ou avoir une discussion. Les week-ends, on essaye d'encourager des animations en groupe, parce qu'il se passe un petit peu moins de choses le week-end dans tous les établissements. Et là, c'est super qu'elles soient là, parce que leur présence est vraiment géniale.
Précieuse.
Ouais, précieuse. Et du coup, elles animent des ateliers de peinture, des ateliers de pâtisserie, voilà. Donc vraiment, c'est un beau projet.
Et la mise à disposition justement du matériel et tout ça, c'est la maison qui prend
C'est la
charge.
Maison, ouais.
D'accord.
Elle nous demande et on voit ce qui est, ce qui est possible. Mais ouais, c'est toujours.
Mais elles ont quel âge?
Elles ont, c'est une bonne question, je crois que 19 et 21.
Tout à l'heure, tu parlais de Paul, le résident de 80...
Ouais, 16 ans.
96,
ouais.
Donc c'est vrai que ça fait un partage entre générations qui est assez fou, quoi.
Ah bah oui, c'est
moi qui suis proche, comme je te disais à Marion, c'est moi qui suis très proche de mon papy qui a 96 ans, moi j'en ai 35, et à quel point ça peut être précieux de tous ces partages, autant lui comme pour moi. Finalement, les échanges, ils sont riches, et je comprends d'autant plus la richesse que ça peut être de le trouver dans ce lieu, quoi.
C'est super pour elle, parce que c'est des expériences de vie tellement différentes en fait des nôtres, leurs souvenirs, c'est vraiment précieux comme échange.
Et elle s'engage sur un an, parce que j'imagine qu'il y a un attachement, non, après qui se fait avec les résidents.
Ouais. Mais même le personnel qui a travaillé au Jardin d'Haïti, généralement ils reviennent. Ils reviennent même s'ils ne travaillent plus pour faire un petit coucou, quoi.
Je me demandais, parce que donc, du coup, tu disais qu'il y avait 93 résidents. En termes de personnel, comment le personnel et l'équipe professionnelle est recrutée? Est-ce que... Voilà, j'imagine qu'il y a plus un côté famille que presque équipe pro, quoi.
Ouais. Là, on est 60 salariés.
60, ouais. Ok, quand même.
Ah oui.
Ouais, médecin compris, enfin, je veux dire infirmière, infirmier.
60 salariés avec des équipes tournantes. Il y a une contre-équipe, en fait.
De nuit, voilà. Je suppose.
Ouais. Là, il y a beaucoup, beaucoup des salariés qui sont là depuis de nombreuses années. Donc, ça montre à quel point ils se sentent bien.
Ouais.
On a Jean-Marc qui est animateur depuis 30 ans. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Donc, c'est beau parce que tout le monde se sent bien dans cette maison. Et c'est d'ailleurs le plus important pour que, les salariés doivent se sentir bien pour que les résidents se sentent bien. Ça paraît évident, mais c'est pas si simple à mettre en œuvre. Et ça, je trouve qu'ils le font super bien. En fait, tout le monde se sent très bien, et ça se ressent quand on rentre dans la maison, qu'il y a beaucoup de bienveillance et d'amour envers tout le monde.
comment on recrute les résidents? Est-ce qu'il y a un recrutement?
Est-ce
qu'ils déposent un CV?
Non. Non. Et on ne recrute pas les résidents. Tout le monde est bienvenu. Et ça se fait sur des listes d'attente et en fonction des places qui se libèrent. Ouais.
C'est marrant parce que moi, j'avais eu envie, et peut-être que cette idée est encore là chez moi, mais je voulais créer un tiers-lieu. Je voulais avoir 10 casquettes différentes, mais parce que ma grand-mère a été dans une maison de retraite pendant quelques années, qui ont été vraiment très difficiles pour elle, et une maison de retraite qui a été assez chère. Et je me disais, c'est fou parce que de payer ce prix-là, qui était bien en plus, hein, c'est pas du tout, c'était plutôt un bon confortable et un bon traitement, etc. Mais je me disais, elle était très peinée de... Elle disait vraiment, c'est un mouroir, quoi. Il n'y a que des vieux. Et on attend tous la fin. Ouais. Et elle entendait, il y avait une école pas très loin. Elle entendait la sonnerie de l'école. Elle disait, oh, mais ça manque de vie. Et je m'étais trop dit dans ma tête, OK, en fait, j'aimerais trop créer un lieu où, en fait, chacun a son indépendance. On cuisine tous, mais en petite échelle. Hein. Attention, je voyais ça pour ma grand-mère et ses copines, quoi. Enfin, vraiment, et en disant, ah ouais, chacun cuisine pour tout le monde. Et puis pour les soins qui sont quand même des soins un peu plus médicaux, tu vois, quand même, où moi, j'aurais pas été en capacité de le faire, on ferait appel à des personnes. Mais je me disais, pour le prix qu'elle paye pour cette maison où ça manque de vie, qu'est-ce que ce serait bien un lieu comme ça? Et je me dis qu'en effet, apporter la vie, puis même pour la jeune génération, le rapport à la vieillesse, en fait, comment on voit la vieillesse, comment on voit la fin, comment un résident qu'on est peut-être habitué à voir, on le voit plus, comment on accepte ça.
Bah oui, d'imaginer une société où certaines personnes, catégories ne sont pas invisibilisées. Exactement. Parce que les personnes en fin de vie ou même des personnes âgées qui ne sont pas forcément en fin de vie non plus, à quel point elles peuvent apporter encore...
De la souffrance, tout ça, c'est...
À quel point elles peuvent encore être utiles et apporter à la jeune génération qu'on est, quoi.
Est-ce que toi, ça a changé ton rapport à la vieillesse ?
Un petit peu, parce que je pense j'ai évidemment des personnes âgées dans mon entourage. J'ai plus de grand-père, mais j'ai encore mes deux grand-mères, donc j'ai beaucoup de chance et j'en suis très très proche. Mais c'est vrai qu'elles sont, ce qui est fou, parce que 98 ans et 90 ans, très très en forme. Elles vivent encore chez elles, elles ont une forme incroyable. Et j'ai pris honnêtement une petite claque, en arrivant au Jardin d'Haïti, parce que oui, la fin de vie, évidemment, c'est ça reste un peu de souffrance. Ça reste de la souffrance, pas pour tout le monde, mais pour certains. Mais malgré tout, le fait de leur apporter la vie, que cet établissement ne soit pas un mouroir où on attend la mort, parce que justement il y a cette micro-crèche avec les enfants qui courent partout, qui rigolent, qui pleurent, qui se font mal, ces coworkers qui passent des coups de fil, en fait ça vit. Donc je pense réellement, malgré la souffrance, qu'on allège en fait leur quotidien et qu'il y a beaucoup...
Tu parles de la souffrance physique?
Physique, ouais, bien sûr, ouais. Il y a la souffrance physique. Et comme tu disais, enfin ça fait partie de la vie. Et je trouve ça très bien que les enfants qu'on reçoit, aussi bien les tout petits enfants de la crèche que les enfants d'école primaire, voient tout ça et que ça soit tout
ça
simplement normal.
Partie, voilà,
ça fait partie de la vie,
c'est ça.
Et avant, un peu dans d'autres générations, enfin ça faisait partie de nos quotidiens. On vivait avec nos grands-parents et c'était normal et on voyait la fin de vie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et je pense que c'est dommage. Ouais. Je pense que c'est dommage.
Ça me fait penser à une figure, peut-être que vous connaissez certainement, Edgar Morin. Je crois qu'il a plus de 100 ans aujourd'hui, et qui s'est marié à 80 ans. Il parle de l'amour.
Ah, magnifique.
L'amour et la vieillesse, et que quel que soit l'âge qui passe, l'amour, il peut être trouvé aussi tard, et qu'il y a quelque chose de beau dans le partage de cet amour à leur âge. Peut-être que les jardins d'Haïti... des couples se forment aussi.
Ouais,
et l'amour à sa place aussi.
Bien
pour
sûr.
Eux.
Ouais, bien sûr.
Non, puis même des résidents qui n'ont pas forcément un lien proche avec leur famille, ça peut arriver. Et puis d'avoir une nouvelle famille une fois à la maison.
L'amitié aussi, entre
les
âgés.
Bien sûr. Bien sûr. L'amitié et même le lien qui se crée avec les salariés.
Bah ouais,
devient
carrément
très très important pour eux. Ouais.
C'est fou parce que. En fait, le social, c'est quand même beaucoup ça. Hein. C'est quand même des personnes qui travaillent face à d'autres personnes. Il y a vraiment une question de soins. Et je me dis que c'est fou à quel point ce genre de métier, c'est tu rentres chez toi, ça t'habite encore.
Bien sûr.
Tu vois, c'est quelque chose où moi, j'ai pas mal travaillé dans le social, alors pas forcément dans ce genre de structure, mais je me dis c'est ça forge. En fait, je trouve que ça forge et ça développe aussi une empathie, en fait.
C'est énorme, oui.
De toute façon, je pense que généralement, tu ne travailles pas dans le social, c'est t'as peu d'empathie.
Vaut mieux pas.
Ou tu vas pas trop te sentir à ta place, en effet. Et je me demandais, donc c'est quand même un modèle comme il y en a peu, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui vous approchent, qui viennent vous voir pour vous demander des conseils pour créer ce genre de structure ailleurs?
Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup, il y a... Alors moi, comme on l'a dit, je suis là depuis 3 mois, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de structures qui sont intéressées pour au moins s'inspirer de tout ce qui se passe au Jardin d'Haïti et qui veulent rencontrer Laurent pour comprendre comment il a fait et tout ce que, tous les bienfaits qu'il en ressort après, on va dire, 3-4 années de cette expérience de tiers-lieu, réellement, d'avoir ouvert la maison à l'extérieur. Et c'est beau parce que le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de maisons comme ça et que si par notre travail, on peut inspirer d'autres personnes et qu'il y ait de plus en plus de maisons comme ça, ce serait génial. Parce qu'aujourd'hui, on a une population vraiment très vieille dans les EHPAD, tout simplement parce qu'on est tous pareils. On ne veut absolument pas que nos parents, nos grands-parents aillent en EHPAD, déjà parce qu'on a une mauvaise image. On a une mauvaise image en général de...
En France, en tout cas.
Ouais, en France. Et ça, si ça pouvait bouger, peut-être que ça serait bien plus sympa, finalement, de ne pas rester complètement isolé chez soi parce qu'on ne veut tout simplement pas aller à l'EHPAD.
Non, mais c'est clair. Enfin, moi, je me dis juste... cette envie que j'avais de créer ce lieu pour ma grand-mère, je me suis juste imaginée à sa place en me disant je préférerais largement vivre dans un lieu de vie. Quoi. D'ailleurs, vous avez l'appellation tiers-lieu. Enfin, vous êtes...
Okay. Oui.
Donc, Non, parce que toi, t'es référent tiers-lieu.
Exactement. C'est ça, hein. Et ambassadrice du lien.
C'est beau.
Ouais, trop joli comme appellation.
Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, même si tu l'as fait avec nous pour préparer l'émission, mais peut-être pour les auditeurs, nous expliquer ce que tu y fais concrètement, comment on peut imaginer tes journées?
Ouais. Mes journées, elles commencent déjà par le café. On va faire le café, je reprends ma place de barista que j'avais pendant de nombreuses années. Parce qu'il y a vraiment un bar au Jardin d'Haïti. Et le but, c'est dès le matin, de mettre une bonne ambiance, de partage, comme si on était au café du village. Donc il y a aussi bien les salariés, évidemment, qui viennent raconter ce qui s'est passé, s'ils sont arrivés plus tôt dans leur journée. Ou même parler de leur vie. Il y a évidemment les résidents qui viennent boire le café avec nous. Pas tous, mais il y a les habitués du café, comme partout, au final. Donc ça commence par ça. Vraiment un moment d'échange et où on prend le temps. On prend le temps de commencer la journée tout doucement. Ensuite, mon travail, il consiste à donc, développer au maximum tous ces aspects de tiers-lieu. Donc il y a plus de personnes qui viennent s'inscrire à l'école de musique, plus de personnes qui viennent coworker au Jardin d'Haïti, imaginer d'autres projets pour que en fait il y ait toujours de la vie dans cette maison.
Comme donc, l'école de théâtre dont tu
exactement.
M'as parlé.
En ce moment, je suis en train de réfléchir à une école de théâtre ou en tout cas même peut-être sous une autre forme de stage pendant des vacances scolaires pour les enfants qui viennent pendant une semaine, aussi bien de théâtre qu'on peut lier la musique, enfin, on réfléchit à tout ça. La chorale, c'est aussi une chose. On travaille avec beaucoup d'associations pour faire venir du monde, des étudiants, de partout, en fait. En ce moment, on a une jeune, Julia, qui vient de nous rejoindre. Elle a un parcours un petit peu atypique. Elle a des capacités cognitives un peu diminuées. Et il se trouve que à sa majorité, sa maman ne savait plus trop comment la diriger vers un parcours professionnel en fait qui lui ferait du bien. Et elle est venue nous rencontrer et il se trouve qu'aujourd'hui elle est avec nous sur la partie Cantu Le Cantu, c'est l'unité protégée. C'est l'endroit où il y a les résidents avec la maladie d'Alzheimer. Et elle vient une fois par semaine passer du temps avec eux, faire partie des animations, du repas. Et ça se passe super bien. Et tout le monde est vraiment trop heureux de ce projet, quoi. Voilà. Il y a plein d'idées, en fait.
Ouais, il y a plein d'idées à développer. C'est chouette parce que...
Il y a plein d'idées à développer et il y a beaucoup de bon sens, en fait, derrière tout ça. Ouais. Donc, tellement de possibilités aussi.
Et je me demandais, là, l'été arrivant, est-ce qu'il y a quand même un arrêt, une pause des activités ? Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues spécialement pour l'été ?
Il y a peu d'arrêts. On essaie de continuer au maximum tout ce qui est mis en place. Évidemment, il y a quelques personnes qui partent en vacances. On essaye de les remplacer. Mais il y a d'autres projets aussi qui voient le jour. Là, à partir de juillet... On a un partenariat avec Make It Marseille et on reçoit des étudiants étrangers qui viennent déjà parler français et faire des projets. Chez nous, c'est plutôt à vocation écologique. Donc, ils vont se prendre le sujet du jardin partagé.
Jardiner ?
Leur but, c'est de donner envie aux gens du quartier de nous rejoindre et de faire partie encore plus de ce projet-là de jardin partagé.
C'était ma question.
Ouais.
Sur le quartier, quoi. Sur le quartier, parce que donc, c'est un lieu... ce qui est intéressant, c'est que tu nous le décrives après, mais il est à côté de la Blancarde, dans le 5e arrondissement à Marseille.
Exactement.
Et c'est un lieu, j'imagine, où les habitants ou les citoyens du quartier ont aussi leur place. Comment ils font corps avec vous ? Est-ce que vous avez des demandes de personnes qui veulent donner un peu de leur temps bénévolement ? Et comment ça se passe ?
Il faut quand même un petit peu aller les solliciter. Évidemment, ils ne viennent pas naturellement parce que ce n'est pas naturel en fait, de venir dans un établissement comme celui-ci et proposer son temps. Mais par exemple, dernièrement, j'ai fait une petite campagne pour trouver des personnes du quartier qui voudraient bien lire des livres aux résidents qui ne peuvent plus. Et j'ai eu beaucoup de retours, super positifs. Donc voilà, ça se passe sur des gens du quartier qui viennent nous voir bénévolement pour donner du temps aux résidents. Le jardin partagé, il est ouvert à tout le monde. C'est encore un sujet qu'on est en train de travailler pour vraiment faire venir les gens et qu'ils soient investis dans ce jardin. Et ça va être le travail des étudiants, en partie.
Voilà. Moi, typiquement, j'habite dans le 5e, j'habite pas loin. Ça m'intéresserait beaucoup de faire la lecture à des personnes âgées, parfois.
Tu es vraiment la bienvenue. Ouais, avec grand plaisir.
Et pour le projet aussi du jardin partagé, c'est hyper intéressant.
Ouais, là le jardin partagé, il vit grâce aussi à des écoles de maternelle et primaire qui viennent passer un jour par semaine ou un peu plus pour faire des plantations et
tout ça. Sensibiliser, j'imagine.
Ouais, exactement.
Certains sujets.
Ouais, moi c'était un peu ma question aussi, c'est-à-dire comment ça transforme un quartier, en fait, un lieu comme ça. Qui ouvre des perspectives sur ce que ça peut être aussi, une maison de retraite, je mets des guillemets, une maison sans cloison, une vie sans cloison. Et oui, je me dis que forcément, ça va façonner aussi sur du long terme, parce que cette maison, j'ai peut-être pas ça en tête, mais c'est une maison que vous louez, c'est une maison qui appartient à la famille de Laurent, c'est ça ?
C'est une très très bonne question, ça.
Parce que toi, je sais pas si c'est un établissement, parce que j'imagine que si l'établissement existe depuis longtemps, le lieu est là depuis longtemps, il y a quand même des normes médicales.
Bien sûr, vraiment un établissement tout sécurisé.
Il y a dû avoir des travaux qui ont été effectués, etc. Et je me demande, tu vois, c'est pas un établissement qui a été créé pour une maison de retraite, qui est, tu sais, un peu tous les bâtiments comme ça, où il y a... où il y a un couloir et ça fait un peu hôpital, quoi. Comment arriver avec ces contraintes-là, médicales, à créer un lieu qui reste encore un lieu de vie et non pas
C'est vrai, ça, quand on dit maison à vivre, j'imagine qu'on peut vite se projeter sur une maison. Mais c'est quand même un gros établissement.
C'est déjà gros, ouais.
Okay. J'ai pas la superficie du tout en tête, mais c'est très grand. C'est très grand. Ce qui est super sympa, c'est qu'il est autour d'un patio. En gros, il y a un extérieur très agréable. Et au deuxième étage, j'ai l'accès à ce jardin partagé. Donc, qui vraiment donne l'impression d'être à la campagne. C'est assez dingue. Mais ça reste un établissement avec toutes les normes de sécurité et ces couloirs qui paraissent hôpital, mais non, parce que on les a imaginés avec beaucoup de décorations,
des matériaux,
photos,
comme tu disais,
des beaux matériaux, du beau mobilier, et ça change tout. Ça change tout. Des belles odeurs aussi. On a des diffuseurs pour que ça sente.
Oui, il y a un truc vachement sensoriel un peu dans.
Exactement.
J'ai lu un petit peu sur le site internet.
L'idée, c'est que quand on rentre, on se sent bien, que ça sente bon, qu'il y ait de la bonne musique.
La nourriture, j'imagine.
Ouais,
on sait que les personnes âgées, elles ont moins de goût et qu'elles ont aussi les sens un peu moins développés, mais de quand même de venir les titiller, les réveiller, ça les maintient aussi.
Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr.
Comment vous faites quand il y a le départ de quelqu'un?
Eh bien, ça, c'est une question... c'est assez difficile comme question. Parce que... c'est malheureusement assez... ça fait partie, pas du quotidien, mais ça fait partie... C'est assez souvent, forcément. Et... on ne fait pas une cérémonie à chaque départ parce que ça pourrait un peu plomber l'ambiance générale des résidents qui restent là. En fait, on est plutôt à l'écoute aussi de la famille et c'est des questions qui se posent à l'entrée de la maison du résident et on respecte un petit peu ses volontés. Donc, il y en a certains qui des familles qui ne veulent pas forcément qu'on en parle vraiment, qu'on mette une bougie. On n'a jamais mis de photos.
Vous n'avez pas de petit rituel propre à la maison?
Non. On réfléchit en ce moment à faire une cérémonie du souvenir. Par exemple, une fois par mois. Voilà. Mais c'est un projet.
Oui. Peut-être que les résidents aussi posent des questions. Ça aussi, comment... Tu vois, j'imagine que s'ils sont... des camarades entre eux, ils ont peut-être envie qu'on fasse pas comme si c'était rien. Je sais pas trop comment se positionner. C'est vrai qu'en effet,
c'est
délicat.
C'est délicat. C'est un sujet délicat.
Et en effet, ça renvoie aussi à sa propre situation à ce moment-là.
Et c'est souvent ça la problématique. Et la plupart, ils aiment bien éviter ce sujet-là.
Ah ouais, plus que. Ouais. Mais c'est vrai que c'est confrontant, quoi.
Et je me demandais, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que vous avez rencontré certaines problématiques qui ont été un peu des freins ou dans le développement du projet, ou tout a été fluide et bien reçu? Parce que quand on évoque un projet, on parle de ce qui s'est bien passé, mais aussi de ce qui a été compliqué.
Alors, comme
est-ce que vous en avez eu?
Ouais, comme je n'étais pas là au départ, j'aurais du mal à répondre à cette question. Je sais juste que ça a été compliqué. La toute base de ce projet, ça a été d'avoir la micro-crèche. Vraiment collée à coller dans les mêmes locaux. Et je sais que pour des normes de sécurité et tout ça, ça a été compliqué à mettre en place. Et que Laurent s'est vraiment battu pour ce projet. Ça a été un des freins. Et au final, il a réussi. Ça devient complètement logique aujourd'hui. Mais,
un frein levé, finalement. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien d'enfants dans la crèche?
Une dizaine. C'est une micro-crèche.
Une micro-crèche.
Oui, ça, oui. Je me dis les cris des bébés, parfois, ça peut... Et il y a une équipe de psychologues ou pas du tout?
Oui.
Ok.
Ouais. Il y a des psychologues.
Ça, c'est... J'imagine que du coup, c'est aussi... autant pour vous, d'ailleurs, peut-être, que pour les résidents. Est-ce que vous avez...
Ils sont plutôt là pour les résidents. Après, ils sont toujours à l'écoute
sur
nos temps de pause. Et c'est très agréable. Mais ils sont là pour les résidents et c'est vraiment génial pour eux.
Est-ce que toi, depuis que tu es arrivée là-bas, tu as vécu des émotions fortes?
Bien sûr, ouais, bien sûr que j'ai vécu des émotions fortes. Après, pour les résidents que j'ai vus partir, je n'avais pas eu le temps de créer suffisamment de liens, puisque généralement, avant leur départ, ils sont plutôt en chambre, ça veut dire qu'ils vont pas bien. Et je les ai peu connus pour la plupart. Mais je projette des fois le départ des résidents avec qui j'ai vraiment créé du lien, et forcément ça va être triste, ça va être dur, mais ça fait partie.
Comment t'arrives à prendre est-ce que c'est un apprentissage pour toi de savoir prendre la bonne distance, être quand même dans le lien authentique, ou est-ce que ça a été assez naturel?
Je suis très spontanée et dans le lien très authentique. Après, peut-être que je vais me prendre une énorme claque quand il faudra apprendre ces mauvaises nouvelles. Mais elles font partie de la vie, en fait. Donc, je me dis que c'est des moments quand même privilégiés que j'ai avec eux. Jusqu'à quand, on verra bien. Mais c'est des super moments.
Donc, ouais, et toi, pour revenir à l'écoute, ça a été un apprentissage d'arriver à rester à l'écoute de ce qui est important pour toi, ou est-ce que c'est assez naturel depuis toujours?
Je dirais que c'est assez naturel. J'ai pas l'impression de faire un effort, quoi.
Oui, ça t'a forcément changé un petit peu, le fait de travailler là-bas, j'imagine, mais en même temps, peut-être que c'était aussi un attrait chez toi que t'avais déjà, quoi, voilà, ce lien à l'autre.
Complètement. C'était vraiment un attrait que j'avais chez moi. En revanche, ça a énormément changé mon quotidien.
Ah ouais?
Enfin, dans ce que je ressens quand je rentre chez moi. C'est, on donne tellement, on reçoit tellement que les journées sont vraiment riches en partage, en émotions. Bien plus que mes expériences précédentes sur Marseille, en tout cas. Il y avait beaucoup de partage dans mon restaurant, puisque c'est aussi un métier de lien énorme. Mais
moins de soins.
Ouais, là, c'est encore plus fort. C'est vraiment encore plus fort. Je sens que mon sourire ou mon regard peut vraiment leur changer leur journée. Et puis changer la mienne, parce que c'est un échange. C'est un sourire, un regard change notre journée aussi.
Là, c'est beau ce que tu dis. C'est vraiment cette importance que tu as en tant que personne dans la vie de quelqu'un d'autre. Là, t'as plein de témoins, en fait. T'as 93 témoins qui sont là et sur qui tu peux changer un petit peu, ne serait-ce que le courant de la journée, quoi.
C'est ça. Et c'est ce qu'on explique aussi aux coworkers, qui, certains sont très à l'aise, évidemment, mais certains sont un peu plus timides d'aller parler. Mais un regard, une présence, juste un sourire, ça fait du bien, en fait.
Oui, comme en disant en début d'émission, écouter, c'est aussi regarder.
Ouais, vraiment.
Juste de faire comprendre à l'autre qu'il existe, quoi.
Il existe,
de le regarder, de le prendre en considération. Et peut-être qu'il se laissera aller à la confidence ou pas, mais en tout cas, il y a une connexion.
Une connexion et le toucher. Le toucher aussi, j'ai vraiment compris l'importance du toucher pour ces personnes-là qui sont vraiment super bien pris en charge au Jardin d'Haïti. Mais ils ont forcément moins de contact quand même dans leur quotidien.
Et ce nom, peut-être que vous en avez parlé, mais ça vient d'où, ce nom? Tu sais pas.
L'avenue d'Haïti.
Ok, c'est tout. Ok.
Ouais. Je me suis dit, allez. Alors, j'ai même pas posé la question parce que ça me paraît évident, mais c'est l'adresse. Donc,
d'accord,
je pense
que
ça
me disait peut-être qu'il y a un lien avec la culture haïtienne ou autre.
Vous avez un peu exotique comme
Je reposerai la question quand même, mais ça me paraît évident parce que c'est l'avenue d'Haïti. Donc,
d'accord.
Ouais.
Ok, donc on sait où vous trouvez.
Ouais.
Est-ce que il y a des. Vous faites la promotion à travers des affiches ou autre, quand il y a des concerts, comment on peut vous trouver tout ça?
Ça fait partie d'une de mes missions. On a des réseaux sociaux, on a un Instagram qu'on essaye d'alimenter avec vraiment des vidéos qu'on prend comme ça sur le moment présent pour montrer ce qui se passe au jardin. Donc sur Instagram, sur Facebook, on fait on essaye de promouvoir l'école de musique aussi bien par des affiches, des flyers que sur Google ou tout ça. Et tous nos événements, on essaye vraiment de les rendre publics. Donc ça passe par la communication.
Et la famille est ok d'ailleurs, les familles sont ok avec le droit à l'image, etc. Il y a un papier signé.
Oui, il y a un papier signé. Ouais.
Et oui. Oui, parce que
c'est important, c'est important.
Ouais, quand même, de savoir ça.
C'est les résidents en général, ils sont, enfin la plupart des familles et les résidents sont ok. Ça pose un peu plus de problèmes sur la crèche, ce qui peut s'entendre.
Oui.
Donc voilà, on fait évidemment attention à ce qu'on met.
Exactement.
Oui. C'est vrai que tu as une programmation événementielle qui vous fait venir du monde de l'extérieur, qui vous permet de gagner en visibilité.
Ouais. Ouais, ouais, bah là, en fin septembre, j'ai plus la date, un dimanche, je crois, 28 septembre, il y a un super groupe de gospel qui va venir, mais là, c'est génial pour tout le monde de venir, en fait. Et l'idée, c'est vraiment de donner la possibilité à tout le monde d'avoir cette opportunité, et dans le quartier, et même plus loin, quoi.
Et tu disais que c'est les mercredis, là, le prochain, donc la semaine prochaine, sur deux. C'est qui qu'on peut venir écouter?
Oula, j'ai pas la programmation en tête.
On regardera concert, c'est sûr.
Oui,
génial. Donc, on se ramène et t'es là.
Oui, je suis là et c'est tout le monde danse. C'est à 16h30 jusqu'à peu près 18h, 18h30. Et vraiment, super ambiance.
Et c'est toi qui, par exemple, si t'as envie d'un projet, est-ce que t'es assez libre dans cette programmation?
Ouais, complètement. Complètement libre, j'ai la possibilité de faire un peu ce que je veux, c'est ça qui est chouette.
Génial.
J'ai envie de faire venir un comedy club, c'est un process. Ouais.
Grave.
Donc
j'ai plein d'idées moi aussi.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une boîte à idées?
Ouais,
tu vois, même les résidents peut-être qui peuvent...
Exactement.
Tu vois,
on a parlé de boîte à rêves avant-hier, mais la boîte à idées aussi, je voulais la mettre pour les familles, pour tout le monde qui passe,
oui,
en fait.
C'est ça.
Parce que ça peut clairement nous donner des bonnes idées, donc c'est... Ouais.
Ouais.
C'est vrai, ça va être fait.
Et ben, je viens vendredi. Ouais.
Dans la boîte.
Je dors dedans.
Marion, on arrive en fin d'émission. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de la musique que tu vas nous partager, qu'on va pouvoir écouter? Je crois que c'est Moby que tu as choisi.
C'est Moby. J'adore Moby, en fait. J'adore sa musique parce qu'il y a en général peu de paroles. Mais ça me procure tellement d'émotions, ces créations, que j'avais envie de partager ça avec vous. Et c'est tout simplement sur mon retour de week-end avec un très bon ami dimanche. On a mis ça à fond dans notre voiture et c'était un beau moment et j'avais envie de le partager. Ouais.
Et avant qu'on arrête l'émission, toi qui es ambassadrice du lien, est-ce que tu as un message à faire passer là, ce soir, maintenant, tout de suite? Que tu aurais envie, sans pression, de divulguer.
Waouh. Vivez, vivre à fond, vivre sans crainte, même si c'est dur, mais entreprendre des choses, prendre des risques, en fait, pour vivre. Vivre des émotions, voilà.
Merci. Mettre en mouvement.
Ouais.
Merci beaucoup, Marion.
Merci à vous, merci beaucoup.
On vous souhaite une très belle soirée, un très bel été avec Marion. Et on vous retrouve à la rentrée en septembre.
Oui, très bien ça.
Oui, on vous souhaite un très bel été. Merci Sidi en régie.
Merci.
Et on écoute Moby. Belle soirée.